Bonjour à tous, bienvenue dans ce séminaire, dans cette séance du séminaire « Relire les sciences sociales ». Aujourd'hui, nous accueillons M. Stéphane Beau pour son livre récemment publié aux éditions La Découverte en 2018, « La France des Belloumis », ainsi que M. Yvan Bruno et Mme Christine Détré pour discuter de ce livre avec vous.
Donc pour présenter nos intervenants, donc, M. Beau, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Poitiers, membre du groupe de recherche sociologique sur les sociétés contemporaines. Et vous travaillez sur la sociologie des trajectoires scolaires, des processus de socialisation, des classes populaires, de l'immigration notamment. Vous aimez donner la parole à ceux dont le discours est rarement entendu ou pas assez valorisé. Et vous apportez aussi une réflexion méthodologique donc sur notamment le métier de sociologue avec, par exemple, le guide de l'enquête de terrain écrit donc avec Florence Weber. En 2011, vous publiez « Retour sur la condition ouvrière », donc sur le thème des classes populaires. Vous publiez aussi donc sur les questions scolaires 80% au bac et après. Et donc, ces deux thématiques qui sont très présentes donc, dans l'ouvrage que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, pour discuter votre ouvrage, donc, nous avons le plaisir de recevoir M. Bruno. Monsieur Bruno, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Lyon 2. Et vous travaillez notamment donc, sur les mondes ruraux, les espaces localisés, les conditions d'exercice du pouvoir politique local. Les engagements du moment 68 en France, et vous avez un travail ethnographique en cours sur les logiques sociales et contextuelles des engagements politiques, associatifs et professionnels de quelques petites villes en Nouvelle-Angleterre. Donc nous avons invité notamment pour l'aspect pluridisciplinaire que vous pouvez apporter, ainsi que votre réflexion sur les trajectoires sociologiques individuelles ou sur la politisation des classes populaires, donc, parmi d'autres sujets. Nous avons aussi le plaisir de recevoir donc, Madame Détré. Donc, vous êtes professeure des universités en sociologie à l'ENS de Lyon. Vous travaillez sur la sociologie du genre, de la culture, et vous avez notamment étudié la question des femmes au Maghreb, avec en 2012 « Femmes du Maghreb, une écriture à soi », mais aussi donc, des parutions et des contributions dans des articles, et notamment « Sortir du harem et du hammam » ou encore « La mémoire est aussi un mot féminin, construction d'une contre-mémoire chez les romancières algériennes ». Votre invitation donc, vient notamment de cet aspect intéressant sur le genre que vous pouvez nous apporter, sur la trajectoire donc, de réussite scolaire donc, dans des filles dans la famille Belloumi, et sur votre travail donc, sur le genre au Maghreb, et peut-être donc, faire un écho entre l'idée de contre-mémoire que vous proposez et l'aspect de contre-histoire proposé par M. Beau.
Donc moi, je vais présenter l'ouvrage ainsi que la démarche de Stéphane Beau. Donc l'objectif est double. D'un côté, il s'agit de proposer une contre-histoire des descendants immigrés algériens en France pour mettre en relief la nette mobilité sociale intergénérationnelle collective. Et de l'autre, il s'agit de proposer une contre-image des Maghrébins, une image qui serait plus réaliste que médiatique. Donc l'enquête se déroule entre 2012 et 2017, et donc il s'agit plus d'une enquête sociologique et moins d'une enquête ethnographique, dans la mesure où la famille des Belloumis est dispersée géographiquement, et donc on n'a pas d'observation quotidienne au jour le jour. Donc au début, il s'agit d'une enquête orale. À cela s'ajoute un échange écrit avec les trois sœurs, puis l'ensemble de la fratrie. Et donc se construit progressivement un univers intellectuel au fil de ces échanges. Donc le livre se construit en trois parties. La première se focalise sur les filles de la fratrie, donc d'abord les deux aînées, puis les jeunes sœurs de la fratrie, en montrant à la fois leurs similitudes, mais aussi leurs différences en termes de parcours scolaire, de trajectoire sociale, afin de rendre compte d'une nette mobilité sociale et d'une socialisation différenciée entre deux générations de filles. La deuxième partie se focalise quant à elle sur les garçons de la famille, en comparant leur parcours scolaire à celui des sœurs et en montrant l'importance de la famille dans leur propre mobilité sociale. Et enfin, on a une dernière partie qui porte sur le rapport de la famille des Belloumi à la religion et à la politique, en particulier au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, où on va avoir une construction, enfin où on a vraiment une lutte de la part des enfants de la fratrie contre les images des Maghrébins qui vont se construire suite à cet attentat. Pour ce qui est donc des résultats de cette enquête, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la famille des Belloumi est représentative ou non de l'ensemble des familles algériennes immigrées en France, voire maghrébines ? Et donc Stéphane Beau montre qu'il s'agit d'une famille exemplaire qui est moins représentative de l'ensemble des familles immigrées, mais plus d'une intégration réussie. Cette enquête a mis en avant plusieurs ressorts de l'ascension sociale, dont je vais énumérer quelques-uns. Tout d'abord, le caractère déterminant de l'arme du diplôme, ainsi que l'importance des conditions de socialisation, surtout pour les filles de la fratrie, puisque l'école et l'environnement social des filles ont été essentiels pour leur mobilité sociale. Néanmoins, il existe quelques écarts de réussite scolaire et de statuts sociaux entre les filles aînées de la famille et les plus jeunes, qu'on peut expliquer avec la dégradation des conditions de vie des classes populaires pendant les années 1990 et 2000, mais aussi à des facteurs différents de socialisation avec le rôle de l'école ou encore des amis. Et enfin, le dernier point consiste à relativiser la force du diplôme à la faveur des mobilités familiales, des solidarités familiales, puisqu'on a vu que pour ce qui est de la socialisation des frères de cette famille, le rôle qu'ont joué les sœurs ont été extrêmement moteurs dans leur socialisation, alors qu'ils n'ont peu ou pas de diplôme et qu'ils sont durablement en emploi.
Donc, juste avant de commencer, on aurait aimé insister sur la position originale de cet ouvrage dans le champ de la recherche, notamment parce que c'est une enquête à la fois modeste et ambitieuse. Donc modeste parce que c'est le portrait d'une famille, de trajectoire individuelle, et ambitieuse parce que cela a duré quand même 5 ans et permet d'aborder beaucoup de champs de la sociologie. Donc, Monsieur Beau, vous mêlez la sociologie de l'immigration, de la famille, la sociologie de l'école, mais aussi la sociologie du travail, ou encore la sociologie politique. Et donc cette œuvre est aussi originale par le fait que vous articulez à la fois la petite histoire et la grande histoire, donc dans une perspective à la fois micro-sociologique et macro-sociologique, en racontant l'ordinaire et le quotidien d'un groupe de personnes, d'une famille, et en vous focalisant également sur les grands clivages, par exemple générationnels, qui peuvent traverser cette famille. Et donc cette originalité de votre démarche dans ce livre, elle se voit aussi par le temps long de l'enquête, les échanges constants que vous avez eus avec les enquêtés, et cette façon que vous avez également de pousser les enquêtés à devenir eux-mêmes enquêteurs. Vous parlez d'auto-socio-analyse. Et cela constitue une dimension très intéressante de votre œuvre, avec également une position réflexive du sociologue, puisque vous vous mettez vous-même en scène en train de conduire cette enquête auprès des Belloumi. Nous vous passons la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je tiens juste à préciser que le livre que j'ai écrit, Retour sur les conditions ouvrières, a été écrit avec Michel Pialou, que je dédie ce livre à Michel Pialou pour un tas de raisons, et je dis qu'il m'a appris le terrain, mais bien d'autres choses aussi en sociologie. Alors, avant de dérouler un peu, donc comme il y aura deux discutants, je ne vais pas résumer le livre, j'ai décidé finalement de centrer le livre, l'exposer sur au moins deux thèmes. D'une part, un travail de contextualisation pour essayer de vous montrer qu'une enquête de terrain, une enquête ethnographique ou une enquête sociologique dans la durée ne peut prendre sens que si on a quand même des données de contexte, notamment statistiques, à mettre en évidence. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai un peu longuement sur l'enquête elle-même, puisque face à moi, il y a un certain nombre de jeunes étudiants de l'ENS et peut-être de l'université ou de Cagnes, et que ça me semble toujours important de revenir sur les modalités de l'enquête. Et après, bien sûr, dans la discussion avec Yvan et Christine, j'aurai l'occasion d'entrer davantage dans le détail. Alors, première chose à dire, avant même de dérouler les slides, il y en a 59, mais il y en a 20 qui seront utilisés. Je vais revenir sur le fait que ce livre, effectivement, il prend sens par rapport à déjà effectivement une histoire d'enquête, une histoire de mes enquêtes. Il se trouve qu'effectivement, j'ai, depuis ma thèse faite à Sochaux-Montbéliard dans les années 89-95, j'ai fait beaucoup de terrain et beaucoup d'entretiens avec des jeunes lycéens, étudiants qui habitaient dans les cités ouvrières entourant la grande usine de Sochaux, où à l'époque, il y avait encore 25 000 salariés. Et donc, ces enfants d'ouvriers étaient majoritairement d'origine immigrée, marocains, algériens, turcs, yougoslaves. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que, en fait, c'était eux qui venaient me parler. Globalement, quand on, notamment des jeunes lycéens ou étudiants, c'est pas toujours facile de les choper, entre guillemets, pour discuter sérieusement. Et en fait, systématiquement, j'avais remarqué ça assez facilement, c'était eux qui venaient me voir pour discuter, pour avoir des échanges avec eux. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut revenir, qui a été très mis en évidence par quelqu'un qu'il faut citer tout de suite pour parler de ce travail, même si je ne le cite pas énormément, c'est bien sûr Sayad. Pour ceux qui ne connaissent pas, Abdelmalek Sayad, c'est un sociologue algérien qui a fait dans les années 70-80, notamment dans la revue de Bourdieu avec de la recherche. C'est un instituteur algérien qui a rencontré Bourdieu quand Bourdieu était assistant de philosophie à Alger. Et tout de suite, là, il y a eu une sorte de coup de foudre intellectuel entre les deux, d'un côté, mais voilà, coup de foudre intellectuel par Sayad, la figure de Bourdieu. Et ensuite, il est venu en France assez vite et il a travaillé sur plein de sujets. Mais notamment, il a fait des très beaux travaux sur les enfants d'immigrés algériens. Et il a fait un livre, un article absolument passionnant qui s'appelle « Les enfants illégitimes ». Dans ce très long entretien, Sayad raconte les contradictions sociales profondes que vit intensément une jeune femme qui s'appelle Zawa, qu'il appelle Zawa, dans les années 75-77. 40 ans plus tard, on peut dire ce livre, ce n'est pas la réponse A, mais c'est s'inscrit un peu dans cette succession-là. C'est intéressant, notamment, de travailler auprès de ces jeunes-là, non pas uniquement pour les réhabiliter, etc., mais tout à l'heure dans l'introduction, je reviendrai là-dessus, mais voilà, c'est juste dire ce livre, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est pas que tout d'un coup, je me dis, tiens, j'ai travaillé sur les Algériens. Il se trouve que ça fait longtemps, j'avais fait un article en Genèse sur une famille algérienne en 96 qui s'appelle « L'enfant d'ouvrier pris dans la crise ». J'ai fait un livre avec Younes Amrani de la région lyonnaise qui s'appelle « Pays de malheur ». Bon, voilà, c'est des choses qui me travaillent. Pourquoi ça me travaille? Parce que depuis les années 80, quand j'étais prof de lycée au lycée Carnot à Dijon, j'avais face à moi deux élèves fachos, fils de prof de médecine et l'autre obreau de province, Front National Jeunesse en 83-84. J'avais toutes les peines du monde à tenir un discours de sociologue face à ces jeunes fachos en herbe. Et j'étais en plein pendant la période de la marche des beurs. Donc j'ai toujours, depuis longtemps, eu cette impression, ce sentiment qu'effectivement, il y avait d'un côté cette intégration en marche que je voyais dans mes classes, avec ces premiers enfants d'immigrés qui arrivaient en classe, et de l'autre côté, ce refus, notamment politique, porté par certains pour dire que ces gens-là, ces jeunes-là et cette génération-là étaient inassimilables. Donc ça, c'est un peu pour mettre en contexte le livre. Alors maintenant, je reviens plus exactement au topo d'aujourd'hui, revenir sur effectivement... Quand je dis contre-histoire des enfants d'immigrés, moi je tiens à un point très important, à savoir qu'on a, souvent à gauche d'ailleurs, et même en sociologie, sous-estimé effectivement l'impact de cette émergence minoritaire, mais quelle minorité, de ce qu'on appelle les djihadistes de l'intérieur. La minorité du pire dont parlait Elias, Mera, Kouachi, etc. Je pense que c'est très important, bien sûr, parce que même si j'ai fait ce livre, bien évidemment, dans la plupart d'esprits de nos contemporains, de nos concitoyens, ce qui prédomine, c'est les attentats djihadistes, c'est Mohamed Merah, c'est les frères Kouachi, c'est le dernier en date à Strasbourg, etc. Donc voilà, ce que j'ai essayé de dire simplement dans ce livre, c'est de dire, bien évidemment, il ne s'agit pas de nier l'existence de cette minorité des djihadistes, mais il faut montrer à côté la forêt cachée par ces arbres. Effectivement, c'est la France des Bédouis. Alors, je vais me limiter au point 1 et 2. Je vais laisser le 3. Donc je vais revenir sur la contextualisation. Je pense qu'il faut aussi insister sur un point important. Vous avez dit tout à l'heure, et ce n'est pas du tout fautif, hein, vous avez beaucoup parlé de maghrébins. Je pense que de jeunes d'origine maghrébine, etc. Il faut, à mon avis, toujours être attentif au fait que le Maghreb, l'histoire des migrations et des immigrés algériens, marocains, tunisiens, ce sont des histoires très différenciées parce que portées par des histoires différentes. Et là, il se trouve que les Belloumis sont algériens. Et ce n'est pas marocain ni tunisien. Donc, je voudrais insister là-dessus. Je vais vous le montrer à travers plusieurs tableaux. Puis après, j'enchaînerai sur d'autres tableaux. Premier tableau qui montre ça. Quand vous regardez la colonne, notamment la ligne Algérie-Maroc, vous comparez l'Algérie-Maroc-Tunisie. On a ceux qui sont deux parents natifs, deux parents immigrés, c'est en rose. Mais quand on regarde la ligne algérienne, on s'aperçoit que presque un quart d'entre eux sont issus de couples mixtes. Donc c'est intéressant de voir que, et ça c'est bien sûr lié au fait que l'immigration algérienne est très ancienne en France, notamment Kabyle, et que dans les années 50-60, vous avez eu beaucoup de mariages, ou pas de mariages, peu importe, avec des femmes françaises. Et que, effectivement, ce graphique montre bien qu'une des caractéristiques qu'on voit à travers cet histogramme, c'est une des caractéristiques de l'immigration algérienne, c'est effectivement son caractère plus composite, et notamment le fait qu'il y ait davantage de deuxième parents qui soient français ou européens. Deuxième caractéristique de cette immigration, bien sûr, c'est la localisation géographique. Là, vous avez ce tableau tiré de Théo qui montre bien que l'immigration, bien sûr, elle est aussi polarisée, concentrée très largement en Île-de-France, mais aussi Lyon et Marseille. Là, il se trouve que la famille que j'étudie, donc je vais essayer de montrer statistiques et monographie, l'enquête de cette famille, elle a lieu dans le centre de la France, à 400 km de Paris, dans une ville ouvrière et communiste. Donc ce n'est pas un endroit de grande immigration algérienne, mais il y a une communauté algérienne assez conséquente dans la ville. Je passe sur les caractéristiques. Maintenant, j'en viens à deuxième caractéristique intéressante, bien sûr, l'âge. En 2008, cette enquête Théo montrait aussi que là, on s'aperçoit en lisant la ligne Algérie, que la différence entre Algérie et Maroc, Tunisie, c'est bien sûr le fait qu'il y a beaucoup plus d'enfants d'immigrés algériens qui ont plus de 35 ans. Donc il y a aussi un effet décalé d'une immigration plus ancienne. Donc l'immigration algérienne, elle se caractérise bien sûr par son ancienneté. Et on pourrait dire des secondes générations d'Algériens, elles existent dès les années 60-70. J'étais la semaine dernière au centre culturel du Riz. J'ai discuté, c'était très intéressant, avec un des membres du groupe de rock Quart de Séjour, qui m'a raconté ça de manière aussi très exemplaire. Donc c'était Quart de Séjour, c'est au début des années 80. Il y a essentiellement des enfants d'immigrés algériens dans ce groupe. On donne juste des ordres de grandeur pour que vous compreniez un peu d'où j'ai parlé. Ensuite, effet de contexte important, bien sûr, l'importance, là c'est une enquête, un fichier malheureusement qui s'arrête en 2004, mais qui montre bien l'importance de cette concentration des enfants. Vous avez en Île-de-France, en 2004, près de 40% des jeunes qui ont moins de 20 ans, moins de 17 ans, qui sont d'origine étrangère. Quand on s'amuse à regarder en Seine-Saint-Denis, c'est 80% à Clichy-sous-Bois en 2004, c'est de 85% aujourd'hui. Donc revenir sur cette histoire il y a l'histoire des enfants d'immigrés algériens, mais aussi un point très important, c'est la concentration spatiale. Dernier point, pour être non pas exhaustif, mais pour vous éclairer, on oublie toujours que le mot immigration, immigré maintenant, et le mot migrant, chasse une réalité tout aussi importante, à savoir que pendant des années et des années, on a parlé de travailleurs immigrés. C'est comme ça qu'on les définissait. Immigrés, c'était un adjectif. Et le substantif, c'était travailleur. La preuve en est, pour les Maghrébins, là c'est l'enquête Théo pour des raisons statistiques homogénéises, on a 70% des parents qui sont ouvriers, dont une majorité presque d'ouvriers non qualifiés. Donc c'est une immigration de prolétaires, d'ouvriers, souvent venus de la campagne, venus vendre leur force de travail simple, comme disait Marx, en France. Et quand on regarde le destin de ces enfants d'immigrés, l'enquête Théo permet d'avoir des résultats assez intéressants, puisque si on ajoute professionnels intermédiaires et cadres pour les enfants de parents maghrébins, on a près de 25% de ceux qui ont un emploi qui sont cadres supérieurs ou cadres moyens plutôt. Et les 17% ici, pour le Maghreb, c'est exactement la famille Belloumi, puisque presque sur les 8 enfants des Belloumi, 5 filles notamment, sont toutes infirmières, assistantes sociales, cadres d'insertion professionnelle. Et donc ce livre aussi, à travers l'histoire d'une famille, il entend rappeler, non pas rappeler, mais mettre au jour cette évidence statistique qui est très largement peu perçue ou non perçue, à savoir l'émergence d'une classe moyenne assez conséquente parmi les descendants d'immigrés algériens, marocains, tunisiens en France. Il suffit d'aller dans les guichets SNCF, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, etc., pour voir l'importance de ces personnes, notamment dans les soins infirmiers, métiers de santé et du social. Donc là aussi, c'est juste pour vous dire que voilà, cette enquête ethnographique ou de sociologie, vous avez bien fait de marquer la différence, s'appuie et prend sens par rapport à ces données macro-sociologiques que j'ai rapidement distinguées. Alors sur la religion, moi j'ai pas le temps de développer, mais un point important sur la religion, c'est montrer bien sûr qu'une des caractéristiques fortes, mais on n'a pas malheureusement on est en train de faire la comparaison, mais une des caractéristiques fortes effectivement de cette immigration, notamment du côté des enfants, c'est l'importance de la religion. 82% des filles déclarent accorder beaucoup ou assez d'importance à la religion. Pour l'ensemble des Français, c'est moins de 50%. Hein, donc on a moins de 20%. On a une des grandes spécificités de cette immigration aujourd'hui, c'est la place qu'ils accordent à la religion. J'y reviendrai dans la discussion, bien évidemment. Alors maintenant, pour ne pas être trop long, je vais quand même essentiellement parler de l'enquête et pour vous montrer finalement quelle a été, après j'en ai des résultats avec des tableaux, mais quelles ont été les particularités de cette enquête. Alors vous avez insisté dans votre présentation sur sa durée. Cette durée, elle n'est pas faite pour... elle n'est pas glorieuse, c'est pas de la gloriole, loin de là. Elle est essentiellement le fait que pour faire une enquête, il faut du temps et que la famille est dispersée entre les 5 qui habitent Paris, ceux qui habitent à 400 km, le fait que je sois professeur de fac et que j'ai autre chose à faire que des enquêtes et un tas d'autres choses bureaucratiques à faire souvent et beaucoup. Donc voilà, j'ai pris du temps parce que je n'avais pas de temps. Mais si j'avais pu faire l'enquête en 2 ans, sachez bien que je l'aurais faite en 2 ans. En revanche, je vais revenir sur le point important. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé de travailler sur cette famille. Au départ, c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi ça, à mon avis, qui fait l'intérêt de l'enquête, objectivement. C'est que, finalement, ce livre, cette enquête, elle a été coproduite par les sœurs aînées, notamment la sœur aînée, puisque c'est, on pourrait dire, pour aller très très vite, c'est un livre que la fille aînée, qui s'appelle Samira Beloumi, aurait voulu écrire. Pourquoi elle aurait voulu l'écrire ? Parce que, quand je la rencontre, elle a 42 ans, elle est née en 1970, ses parents vieillissent, même si sa mère l'a eu quand elle avait 18 ans. Mais son père a 70 ans, il commence à vieillir, problème de poumons, etc. Et elle a des jeunes enfants, 2 jeunes filles, donc elle est une génération charnière. Et elle se pose cette question qu'on peut se poser parfois dans une vie. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants qui sont nés ? Mes parents vieillissent, qu'est-ce qui va rester de cette histoire ? Et comme elle est très attachée à ses parents et à cette histoire migratoire, et qu'elle-même... Et étant venue en France à l'âge de 7 ans, en 77, elle-même se vit comme une petite immigrée, puisqu'elle a appris l'arabe dialectal, elle a fait 1 année de CP à Mostaganem, elle était première de l'école de sa classe, donc c'était une bonne élève, elle a vécu ça comme un drame au milieu de l'année, de devoir rejoindre son père en France, dans cette petite ville de Sardan, où il fait gris et où il pleut tout le temps. Donc elle-même se vit comme une petite immigrée, et elle a eu à cœur de transmettre à ses enfants, elle avait à cœur de vouloir transmettre à ses enfants cette histoire personnelle et cette histoire familiale. Simplement, elle naît, entre guillemets, à l'époque, infirmière, même devenue cadre cadre de formation en institut de formation des soins infirmiers. Donc elle ne se sent pas capable, entre guillemets, elle ne se sent pas légitime d'écrire, elle est plutôt bloquée dans l'écriture. Et il se trouve que, on verra après le détail, elle va se servir de moi, et bien sûr, j'accepterai avec grand plaisir, pour écrire cette histoire qu'elle aurait voulu écrire pour ses parents. Et quand je rencontre des articles qui sont sortis à la suite du livre, je renvoie systématiquement aux enfants par mail, etc. Et à chaque fois, Samira et la deuxième sœur Leïla me disent tout le temps, on est content. C'est vraiment ce qu'on voulait, que l'histoire de nos parents soit connue, mais pas que l'histoire de nos parents, mais l'histoire des parents comme les Beloumi. Et à la suite de ce livre, il y a un projet de documentaire qui s'appellerait « À la rencontre des Beloumi de France ». Parce que c'est ça l'idée, les Beloumi ne sont pas tout seuls, loin de là. Donc comment ça s'enclenche, une enquête comme ça ? Ben, ça s'enclenche par une sorte de hasard, qui n'est pas complètement un hasard, bien évidemment, puisque quand j'ai fait une conférence dans une mission locale, pour les 30 ans de mission locale en Seine-Saint-Denis, à la fin de cette conférence où j'ai fait mon topo de sociologue, si l'on peut dire, il y a 3 sœurs qui sont là, 3 des sœurs Beloumi, notamment la sœur aînée, qui vient à la fin de la conférence pour venir vers moi, pour discuter, et qui me dit « Merci pour ce que vous avez dit, ça nous fait du bien ». J'ai noté après, le lendemain ou surlendemain, cette expression, cette première interaction, parce qu'elle signifie, voilà, merci parce que vous avez montré que nous ne sommes pas tous des bandits, vous avez montré la polarisation du groupe, vous avez montré des statistiques, tout ce qu'on sait, nous, par cœur, dans notre famille, puisqu'ils ont 8 enfants, puisque vous verrez tout à l'heure la différence. Et ça nous fait du bien, puisqu'elle me le dira 1 an plus tard, cette rencontre a lieu 4 mois après les attentats terroristes de Mohamed Merah, et qu'elle en avait été, au sens propre du terme, malade. Qu'elle a toujours, 4 mois plus tard, elle est toujours hantée par cette figure, par ces scènes, par ce personnage de Mohamed Merah, et elle passe son temps à essayer de comprendre ce qui s'est passé là. Et l'enquête, me semble-t-il, la demande d'enquête rejoint cette interrogation. Donc, en deux mots, on se met à discuter. Il se trouve qu'il fait beau, c'est la fin du mois de juin, il y a une esplanade. Et on va passer trois quarts d'heure à discuter dehors lors de ce pot, de ces manifestations, de ces 30 ans. Et à ce moment-là, je m'aperçois que, voilà, ils ne sont pas que trois, qu'ils sont huit enfants, que le père est ouvrier au départ, qu'il est venu de la campagne, de l'Algérie, etc. Donc, j'arrive assez vite à faire une petite enquête, malgré tout, sur la famille dans ces trois quarts d'heure. Et à ce moment-là, à la fin de cette discussion, je leur dis, et je dis notamment à la sœur aînée, ben, ça serait quand même, ça pourrait être intéressant de raconter votre histoire. Et à ce moment-là, les trois sont toutes d'accord, désireuses de le faire. Ce qui fait que le mois qui va suivre, au mois de juillet, je vais pouvoir commencer, avec les quatre filles habitant Paris, à faire des longs entretiens biographiques avec les premières sœurs, avec les quatre sœurs, qui sont tout de suite très intéressants. Alors, pourquoi ça marche ? Donc, j'ai mis effectivement Samira à lieu d'enquête. Oui, donc je fais juste une petite digression, je suis désolé, mais pour ceux qui découvrent, je vais juste vous raconter cette histoire d'une famille très rapidement pour dire que, bien évidemment, maintenant, il faut comprendre un peu la famille. Le père est né en 42, la mère est née 10 ans plus tard. Le père est d'un village, fils de berger, lui-même berger à 10 ans. Il n'a pas fait d'études, il ne maîtrise pas le français, il a fait un peu d'école coranique. Il n'a pas pu aller à l'école française. Deux de ses frères et sœurs sont morts du typhus dans l'enfance, donc une famille populaire, paysanne, extrêmement pauvre. Donc, avec un point important, bien sûr, dans son histoire, il s'engage dans l'armée française et il devient algérien en 62 et il entre en France en 71, immigration. La mère a 10 ans de moins. Une histoire intéressante puisqu'elle se fait adopter de manière informelle par sa voisine d'immeuble. Donc, elle va vivre entre 4 ans et 14 ans chez sa mère. C'est pour ça qu'elle a pu aller jusqu'en 4e dans cette ville de Mostaganem. Elle se marie en 68 quand elle revient dans sa famille biologique où elle est de trop et où elle se marie, où on la marie, peu importe, il y a des discussions autour de ça. Et ensuite, la famille se constitue. 8 enfants, de Samira née en 70 à Nadia née en 86. Donc, une histoire classique, comme je dis, de la troisième génération d'immigrés algériens dont parle Sayad dans ce très bel article « Les trois âges de l'immigration en France ». Donc ça, c'est pour vous donner le contexte, comme ça vous savez à peu près de quoi je parle. Maintenant, pourquoi cette Samira, entre guillemets la fille aînée, pourquoi elle veut me parler à ce point ? Pourquoi elle va jouer un rôle majeur d'allié d'enquête, pour reprendre une fameuse expression de Florence Weber dans Le Travail à côté ? Allié d'enquête, c'est-à-dire c'est elle qui va, vous imaginez bien qu'il y a très peu, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de mes collègues, il y a très peu de travaux approfondis de ce type. Pourquoi ? Parce que c'est difficile, non pas... C'est pas un exploit, mais c'est difficile d'accepter, de voir une famille accepter de se dévoiler à ce point. Très difficile, parce que vous le savez, la famille, c'est soi-disant la cellule familiale, mais c'est plein d'interdits, de secrets, de placards, etc. Bon, donc, effectivement, pour que l'enquête ait pu marcher, il a fallu quelqu'un dans la famille pour porter, notamment auprès des frères et sœurs et des parents, cette idée, on va faire un livre ou une enquête sur vous, monsieur, madame Beloumi et les enfants. Et c'est bien sûr Samira qui va jouer un rôle majeur tout du long de l'enquête, puisque c'est elle qui va en permanence relayer mes demandes, envoyer des SMS, envoyer des mails à chacun de ses frères et sœurs quand parfois l'enquête patine ou bloque, puisque c'est elle qui dit, voilà, ce livre, c'est une histoire de notre famille et il faut aider, entre guillemets, le sociologue ou Stéphane à faire son enquête. Alors pourquoi elle est dans cette position-là ? Parce que bien sûr, j'ai dit, elle aurait voulu être autre chose qu'infirmière, même si bien sûr infirmière c'est un métier noble, mais bien sûr c'était quelqu'un, et aujourd'hui elle est inscrite en thèse de psychologie du travail, mais au départ elle aurait voulu faire des études de lettres, elle a fait un bac ES, c'est une lectrice, quand je la vois elle est encore abonnée à Philosophie Magazine, donc c'est une sorte d'intellectuelle permanente, mais qui n'a pas les titres adéquat. Donc la rencontre avec moi, c'est bien sûr lié à cela. J'oublie de dire qu'à l'époque, je suis prof de socio à Normal Sup, rue d'Ulme, qu'elle connaît le prestige de cette école. Donc voilà, je pense qu'il y a dans cette relation-là, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées par rapport à ce titre. J'aurais été simple professeur de sociologie à Poitiers. Je ne sais pas si ça aurait marché à ce point. En tout cas, ça a joué un rôle important. Et donc là, elle-même, pourquoi elle joue ce rôle-là ? Parce qu'elle avait déjà aussi, dans ses études qu'elle a poursuivies, dans un master de management, fait un petit récit de vie de son père. Donc, elle avait en permanence cette idée-là. Et donc, elle a joué ce rôle. Dernier point, pourquoi et comment elle a fait ce travail de conviction ? Bien évidemment, elle le faisait de manière, avec toute l'autorité symbolique de son statut d'aîné. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'elle a porté, avec sa deuxième sœur Leïla, elle a porté toute la famille. À la fois symboliquement, dans l'aide au soutien scolaire, mais aussi matériellement, elle redonne l'argent à ses parents. Voilà, ce sont des j'ai employé une expression une fois dans un séminaire, mais je pense que ça fait écho à Marie India, et ce sont des femmes puissantes, entre guillemets, qui sont les deux aînées, qui sont construites très fortement à travers un tas d'adversités sociales, et ce qui fait qu'effectivement, elle a suffisamment d'autorité pour dire à ses frères et sœurs, vous pouvez parler. Je donne toujours cet exemple. Pour ceux qui m'ont déjà écouté, c'est une redite, mais peu importe. Un exemple intéressant, deuxième frère qui est chauffeur de bus RATP, Asdine, lui, tout de suite, a voulu me parler facilement. C'était des trois garçons, celui qui était le plus à même et le plus désireux de me parler. Et lors du quatrième entretien, qui a lieu 2 ans après le début de l'enquête, un entretien absolument remarquable où il me raconte ses contradictions dans son dépôt de bus entre ce qu'il appelle les mecs de la Cégette, de la CGT, qui votent un peu ou qui sont un peu ou beaucoup le péniste, et de l'autre côté les barbus, les intégristes religieux qui sont dans son dépôt. Lui, il est coincé entre les deux groupes, si on peut dire. Et donc l'entretien était suffisamment passionnant pour qu'à la fin, je lui dise, mais Asdine, celui-là était vraiment super, cet entretien. Et là, il me dit, ouais, mais celui-là, c'était pour moi. J'étais un peu vexé. Et les autres, alors ? Il me dit, mais non, c'était pour Samira. En fait, il faisait les premiers entretiens pour sa sœur, en service commandé, si l'on peut dire. Parce que, voilà, elle a dit, c'est un travail de ce type. Et puis le dernier frère, qui s'appelle Mounir, qui, après coup, a beaucoup regretté de ne pas être dans le livre, lui, il m'a fui tout le temps. Et à un moment donné, j'ai dit à Samira, écoutez, je ne peux pas... Le livre, il faut au moins que je puisse avoir au moins un entretien avec Mounir pour pas qu'il puisse contester, etc. Donc il a accepté la mort dans l'âme dans un entretien dans un café bruyant à Paris. Et pour vous donner aussi le sens de tout cela, la deuxième phrase qu'il tient, le deuxième propos qu'il tient dans cet entretien avec son copain Kamel qu'il a fait venir avec lui pour être épaulé dans cette épreuve. Et il me dit, vous savez Stéphane, l'école, ça n'a jamais été mon fort. Et le fort de l'école, c'est ses sœurs. Donc là aussi, dans la famille, il y a cet aspect-là qui est bien sûr très important. Les filles ont fait Bac plus 3, Bac plus 4. Les garçons n'ont pas été diplômés. Et donc, oui, l'idée de Mohamed Merah. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, donc, je dis ça de manière très ramassée. Et comme tout bon auteur, je dis reportez-vous au livre. Parce que là, c'est plus compliqué dans le livre, c'est plus détaillé. Pour comprendre, par exemple, un cas que j'ai juste abordé, mais qui est intéressant, Leïla, c'est la deuxième sœur, qui est cadre d'insertion professionnelle, qui a aussi un bac ES, DUT de carrière sociale, vous voyez ça. Elle se construit à l'opposé de sa sœur aînée. Et donc, elle va être très réticente à l'enquête, parce qu'elle n'aime pas se confier, elle n'aime pas s'épancher, elle est très sur la réserve. Et petit à petit, je vais comprendre qu'avec elle, ce qui l'intéresse, ce qu'il a construit, ce n'est pas justement ce qui a été le cas de Samira, l'école, etc. Elle, ce qu'il a construit, c'est la politique. C'est le rapport aux politiques, parce qu'elle a grandi dans une ville communiste et que dès l'âge de 12-13 ans, elle a été avec les animateurs, elle a tenu le stand de l'humanité locale du coin. Voilà, elle est allée à la fête de l'Huma dès l'âge de 16 ans. Elle a vécu avec le groupe des militants communistes locaux. Et donc, c'est comme ça qu'elle a conquis son indépendance et marqué sa singularité par rapport à sa sœur. Mais parler politique, ça l'intéressait, mais parler d'elle, ça n'intéressait pas. Et donc, j'ai mis un peu de temps pour comprendre ça. Et quand j'ai... Un peu de temps, et pas trop. Et quand il y a eu cet article, les trois sœurs sociologues, à ce moment-là, il y a eu une discussion extrêmement intéressante. C'est pour vous montrer aussi comment se fait une enquête. C'est que, bien évidemment, une enquête de ce type, on ne va pas cacher ses données à ses enquêtés. On a des relations de confiance. Donc, j'ai donné l'article aux trois sœurs aînées que j'avais vues dans cette mission locale. Les deux sœurs aînées m'ont dit « ça va, c'est bien écrit ». Mais la troisième sœur, Amel, qui est née en 84, elle m'a fait un retour plus critique en disant « j'aurais bien des choses à dire sur cet article ». Donc je l'ai tout de suite textoté, j'ai appelé, et j'ai envoyé un texto, elle me dit « pas de problème, on en discute ». Donc quelques jours plus tard, dans un café pas loin de chez moi et pas loin de son travail, avec un magnéto, un enregistreur comme on dit aujourd'hui, j'ai fait une heure d'entretien sur le texte à l'appui, les critiques qu'elle faisait. Et dans les critiques, il y avait l'idée, Samira a tiré la couverture à elle, il y avait Leïla. Et à ce moment-là, je découvre aussi qu'il faut faire parler Leïla, mais différemment. Et c'est à ce moment-là que je vais lui faire parler politique. Et tous nos entretiens après, avec elle, seront centrés sur ces questions-là. C'est pour dire, par rapport aux jeunes étudiants apprentis en sociologie, les gens, on ne fait pas parler les gens comme ça. Il y a des conditions sociales de prise de parole. Et il ne faut pas braquer les gens, il faut essayer de faire en sorte d'aller un peu dans leur sens. Et pour Leïla, c'était la politique. Une fois que j'ai compris ça, ça s'est beaucoup mieux passé. Elle a été beaucoup plus active dans l'enquête. Alors, dernier point, convaincre les garçons de participer à l'enquête, je l'ai dit un peu, mais bien sûr, à partir de cette idée fondamentale, c'est qu'effectivement, les trois garçons, aucun n'aura le bac général. L'un, chauffeur de bus, Asdin, aura un bac pro. Les deux autres se sont arrêtés, même pas avec un BEP. Le fils aîné, Rachid, s'est arrêté en quatrième. Et donc, bien sûr, le fait qu'ils soient scolairement en deçà de leur sœur, ça a joué un rôle, bien sûr, très important dans la perception qu'ils avaient de moi et de l'enquête. Et même si le frère aîné Rachid est un vendeur, commerçant, etc., aimant beaucoup parler et tchatcher, la première fois que je le vois, on est d'accord pour aller faire un entretien chez lui, la maison qu'il loue à quelques mètres de chez ses parents, et je m'aperçois dans la voiture qu'en fait sa sœur est venue, une de nos autres sœurs, qui est aussi infirmière, qui s'appelle Dalila, parce qu'après je m'apercevrais qu'en fait il ne pouvait pas me parler seul, qu'il avait aussi besoin de sa sœur pour affronter cette épreuve, parce que ce n'est pas rien de parler à un sociologue. Le père m'a défini comme un écrivain. Il se trouve que deux avaient lu Pays de malheur, donc les deux sœurs aînées connaissaient un peu ce que j'avais fait par ailleurs, et qu'effectivement, c'est une épreuve. Hein, donc, je dis tout ça pour vous raconter que toute cette histoire de cette enquête, c'était une espèce de, voilà, comment gagner progressivement la confiance de personnes qui sont, notamment les garçons, loin de votre univers, loin de vos préoccupations, loin de vos lectures, etc. Et surtout pour eux, qui vous voient comme vraiment, non pas un extraterrestre, mais quelqu'un d'un autre monde social. Et pour finir, je finirai sur cette question de l'enquête, pour revenir sur un point intéressant, sur le fait que, bien évidemment, les attentats de 2015 ont changé la donne de l'enquête, puisque de 2012 à 2015, de 7 janvier, on pourrait dire, l'enquête avançait à un rythme assez tranquille. Bon, je racontais une histoire de famille, il manquait l'histoire du père, on y reviendra dans la discussion, mais voilà, ça marchait bien, je recoupais les informations, etc. J'ai fait aussi, pour les historiens dans la salle, j'ai fait un travail d'archives, dans les archives départementales et municipales, pour essayer de repérer la famille dans les archives, mais aussi repérer l'histoire du logement, etc. Comme c'est anonyme, je ne peux pas, bien sûr, donner les codes d'archives, mais j'ai aussi fait un travail d'archives pour contextualiser. Et dans ce travail de contextualisation, par exemple, comme toujours, quand on fait des archives, on a des moments de grand bonheur, quand tout d'un coup, je découvre un rapport de 77, l'année où ils arrivent, où je trouve adresse par adresse, numéro de rue par numéro de rue, le bâtiment qu'ils ont occupé en 77, où je m'aperçois qu'il y a 7% d'étrangers contre 30 à 35% dans les blocs et dans les tours qui sont à 300 mètres. Et je fais la photo de cette statistique pour moi géniale. Je l'envoie aux deux sœurs en disant « Ouais, c'est intéressant de voir que vous avez commencé à habiter un immeuble où il y avait beaucoup moins d'étrangers. » Et elles me répondent tout de suite « Bien sûr, notre père ne voulait pas être avec les autres étrangers. » Il y avait du côté du père, parce qu'il est paysan, un peu sauvage, c'est du jardin ouvrier, etc. Il ne voulait pas être mêlé aux affaires de la communauté, comme il dit. Il voulait être tranquille. Mais ça a eu des effets, bien sûr, parce que ce logement-là, ça veut dire qu'ils vont aller dans l'école primaire, qui est plus classe moyenne que l'autre école, que les deux autres écoles primaires du centre de la banlieue, de cette cité de banlieue. Ça veut dire que le collège aussi sera un peu plus mixte. Donc ça aura aussi un effet, bien sûr, sur la scolarisation et sur les modes de sociabilité de ces enfants. Rachid, qui est celui qui est parfois désigné comme étant le mouton noir de la famille, parce qu'il a fait 6 mois de prison pour un vol, ensuite s'en est sorti. Bon, ben Rachid me dit, 30 ans plus tard, ses copains ne sont pas les copains de cité, c'est les copains d'école primaire qui sont français d'origine, gendarmes, policiers, ouvriers. C'est avec eux qu'il a gardé les mêmes contacts depuis qu'il les a connus à l'école primaire. Donc vous voyez les effets importants de ce type de socialisation. Alors je vais finir, parce que l'essentiel c'est la discussion, je vais finir justement par ces tableaux comparés, parce qu'en fait c'est ça un peu, bien sûr il y a toutes les médiations, mais les résultats de l'enquête c'est aussi... On peut commencer par regarder les lignes. Si vous apercevez la deuxième ligne, elle est très intéressante. Nationalité. Donc, les trois premiers enfants sont nés en Algérie, après l'indépendance. Donc, ils sont algériens nationalité. Et vous allez voir, et les deux autres, après, à partir d'Asdine, sont nés en France, donc français. Mais, dans la ligne nationalité, le seul qui est resté algérien, c'est Rachid. Les deux sœurs aînées ont été naturalisées. En fait, elles ont demandé la naturalisation. Et pourquoi ont-elles demandé leur naturalisation? Parce que justement, elles sont prises dans un mouvement de poursuite d'études, elles arrivent au lycée, c'est pas gagné, puisque en fin de troisième, elle a un an de retard, Samira, puisqu'elle a dû redoubler son CP pour apprendre le français. Sa mère lui interdit quasiment le passage en troisième. Et c'est son professeur de lettres, de français, qu'elle remercie encore aujourd'hui, qui vient toquer à la porte pour exiger des parents Belloumi qu'il laisse passer sa meilleure élève en seconde générale. C'est ce que la mère va accepter de faire, avec notamment la forte pression du père. Mais quand elles arrivent au lycée, petit à petit, elles vont comprendre les enjeux du post-bac, parce qu'elles sont des bonnes élèves malgré tout. Et elles ont des perspectives d'avenir, DUT de carrière sociale, infirmière, etc. Et là, elles s'aperçoivent, par des copines marocaines notamment, qu'il faut devenir française. Donc elles se naturalisent, non pas uniquement pour les beaux yeux de la France, en partie, Samira se dit amoureux de la langue française, mais aussi pour des raisons très pratiques. Hein, parce qu'elles en ont besoin pour devenir infirmière. Et même, elles passent d'ailleurs une épreuve, puisque Samira me racontera longuement, je crois que je le mets dans le livre, que quand elle passe son examen de passage, si on peut dire, face à la mairie ou la préfecture, la première chose que lui dit la dame qui est en face d'elle, c'est très bien devenir française, mais est-ce que vous avez songé quand même à changer de prénom ? J'ai mis Samira parce qu'il est un peu neutre, mais elle a un prénom qui est encore plus, entre guillemets, de sonorité arabe. Donc elle-même... Elle va être extrêmement choquée par ça, de vouloir tout de suite, voilà, cette secrétaire, dans ces années, à la fin des années 80, on est en train de discuter du code nationalité, bien sûr, va l'enjoindre à changer de prénom. Malgré cela, elle persiste, elle signe, elle ne va pas parler de racisme et de discrimination, elle va comprendre un peu ce dont il s'agit, elle va dire, voilà, j'en ai besoin. Et Rachid, lui, va rester algérien. Parce que justement, il est celui, parce qu'il est vendeur, etc., il n'a pas fait d'études, il n'a pas besoin pour ses papiers. Et puis bien sûr, il me dira, lui-même, n'exagérant rien, en disant effectivement, entre 16 ans et 22 ans, j'étais, voilà, non pas un caïd de quartier, mais j'étais un bagarreur. Il passait son temps à se battre dehors, dans son quartier, etc. Et donc, il a fait plus qu'une fois des tours au poste de police du coin. Et donc, il garde des souvenirs, on va dire, assez mitigés de ses passages au commissariat de police. Et en même temps, il reconnaît qu'il était assez régulièrement tabassé, mais qu'en même temps, il le cherchait bien. Il dit les deux choses à la fois. Mais c'est vrai qu'il dit, avec tous mes stages prolongés au commissariat de police et le bleu-blanc-rouge tout autour de moi, je n'avais pas une folle envie de devenir français. Hein, on peut reprendre ces exemples-là pour montrer justement la nationalité. C'est très profondément sociologique. Alors, en deux mots, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est dans la famille, cette différence qui a été relevée. Les filles font des études et globalement, bac plus 3, bac plus 4... Elles deviennent toutes cadres. Elles ne connaissent pas le chômage. Elles sont toutes en emploi. Et les garçons, tout aussi intéressant, je finirai là-dessus, les garçons, même s'ils ont moins diplômés, ils vont trouver une place au marché du travail. Et ce qui est intéressant, c'est tous les processus, j'ai pas le temps d'aller, mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont malgré tout trouver un travail ? Bien sûr, il y a les réseaux locaux, il y a les amis d'amis, il y a bien sûr le rôle essentiel des sœurs aînées. Il y a un petit patron de commerce qui va donner une chance à Rachid après sa sortie de prison. Et il se trouve que Rachid va être très tôt un très bon vendeur et va prendre son envol professionnel grâce à cette main tendue par ce petit patron commerçant. Et pour Azdine, il y aura, après un long épisode semi-dépressif quand il a 20-23 ans, il y a ce rôle essentiel de sa deuxième sœur, Leïla, qui va le prendre chez elle. Ils viennent à Paris, voilà un truc important, je finirai là-dessus. La question des socialisations résidentielles dans les cités, c'est pas facile de grandir quand on est un garçon, l'appel des copains, les conneries ici ou là. Et comme me dit une fois Azdine, quand la cafetière débordait, on allait chez les frangines à Paris et là on décompensait. Et là on voyait autre chose, elle nous emmenait ici ou là. Donc là aussi le rôle très important de ces sas de décompression, à la fois physiques et spatiaux et mentaux, qui font qu'en étant aussi avec ses sœurs aînées, ils ont pu se ressourcer. Et quand Azdine va un jour chez sa sœur, c'est son père qui dit, Monsieur Belloumi, qui a toujours dit à ses enfants, je veux vous trahir avec le stylo. Et un jour, le père appelle à l'aide sa fille en disant, sauve-moi Azdine, prends-le à demeure chez toi. Elle le prend à demeure, il a 24 ans, et elle fait un tour d'horizon des métiers professionnels. Il a le bac pro, il aime conduire, donc elle choisit pour lui métier de chauffeur de bus, elle lui fait son CV, elle lui fait passer des oraux blancs, on pourrait dire, d'examen pour avoir son oral, et il devient chauffeur de bus. Et quand il devient chauffeur de bus RATP, quand il revient à la maison avec son costume, le père, M. Belloumi, pleure parce que il est sauvé. Parce que justement, d'un père ouvrier dans le bâtiment, analphabète, entre guillemets, le fils chauffeur de bus RATP, 2000 euros par mois, plus la sécurité d'emploi et la retraite à 50-60 ans, bien sûr, pour M. Belloumi, c'est une mobilité sociale tout à fait conséquente et importante. Voilà, donc là, je donne des petites indications et mes collègues vont discuter de manière plus approfondie pour vous en sachiez plus. Merci.